Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode spécial Zodiac, et celui-ci est tout spécial.
Ben oui, on me confirme à l'oreille que ben, c'est le mois de mon anniversaire. Je suis un bélier, et donc on vous offre un épisode spécial bélier aujourd'hui, parce que ben, c'est ça, c'est la saison du bélier, puis ça donne que c'est ma fête aussi. Yay!
Donc on se met tous ensemble pour dire un bonne fête à l'avance à Jess. C'est un bon mois qui s'en vient.
Yay!
On va sauter tout de suite à la recette du cocktail du jour. Et aujourd'hui, notre recette nous vient de Véronique Allard. Donc, shout-out à toi, Véronique Allard, sur Instagram. On boit, à cause de toi, un gin and jam. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à table de confiture de fraises, le jus d'un demi-citron et 4 onces de gin. That's it? That's all?
Basketball!
J'imagine que vous faites juste un petit swirl, vous... Mixez ça tout ensemble, puis vous buvez ça, puis allez-y, comme vous voulez, en fait, là, si vous voulez faire un twirl ou pas.
Vous pouvez soit mélanger, vous pouvez le mélanger dans un shaker. Mais sinon, j'ai quand même bien adapté le shake, puis je l'ai genre conjugué. Le dictionnaire des verbes, crème et cocktail, apparaîtra bientôt. Si je disais, moi, là?
Shake, ou on peut twirl, faire un petit mixage dans le verre direct, ou on peut juste shaker avec de la glace aussi, peut-être. Ouf. Nous, on a fait ça bien simple, on a mis ça dans un shaker, puis on a shake parce que c'est notre passion, là.
Vous connaissez notre passion pour le shaking, donc, ben, c'est ça. Voilà, toutes ces explications pour vous dire que vous êtes libre de choisir comment vous buvez votre gin and jam. Comment tu l'aimes, ton gin and jam? Moi, j'aime vraiment le nom, là. Gin and jam!
Moi aussi, j'aime ça. Je trouve que ça se dit tellement bien, gin and jam. J'aime bien ça parce qu'évidemment, j'aime beaucoup le gin. Comme vous le savez, moi et Jess, on est passionnés de gin. Puis, ma confiture préférée, c'est la confiture aux fraises. Fait que, tu sais, ça vient mixer a best of both worlds. Fait que je donne un bon 8.5 sur 10. J'aime ça. C'est simple. C'est hors de l'ordinaire. J'aurais jamais pensé mettre de la confiture dans mon cocktail. Mais j'aime ça, ouais.
Moi aussi, je pense que je vais y aller pour un 8 sur 10. Je trouve ça super bon. Puis je pense qu'avec la confiture de fraises, on aurait peut-être été mieux d'y aller avec un gin à la fraise. Puis il y a comme le Kelper. J'ai toujours la misère à dire le nom de celle-là. Je sais pas pourquoi mon cerveau le lit à l'envers. Mais cette marque-là, ils ont comme une saveur à la rhubarbe et à la fraise. On dirait que je pense que ça pourrait être le match parfait. Fait que voilà, voilà. Cheers!
Chin.
Aujourd'hui, comme Noémie l'a dit d'entrée de jeu, on célèbre la saison du bélier. Bébé du Zodiac, le bélier, c'est un signe extrêmement aventurier, assez drôle, très, très sensible, assez impulsif et en constante recherche d'aventure. Ceux qui vous diront que les béliers, ce sont des êtres vraiment intenses, ben, ils ne se tromperont pas. Ils vivent, ressentent et aiment avec une énorme intensité. Et justement, parlant d'intensité, Richard Kuklinski voit le jour le 11 avril 1935 à Jersey City, dans le New Jersey, aux États-Unis. Rapidement impliqué dans le crime organisé, Richard Kuklinski s'est fait éventuellement engager par quelques membres assez influents de la mafia. Au début, Kuklinski va commettre des vols, distribuer de la pornographie illégale pour l'organisation criminelle, mais éventuellement, il va gagner la confiance de quelques autres membres un petit peu plus influent et va se faire engager comme tueur à gages. Entre 1980 et 1984, il va assassiner au moins 5 individus et il va congeler le corps d'au moins l'un d'entre eux, ce qui va lui donner le surnom The Iceman ou en français, l'homme de glace. Soupçonné par les autorités d'être impliqué dans le meurtre de deux criminels d'un clan adverse, il va se faire approcher par un agent d'infiltration et il va se faire solliciter pour le meurtre d'un autre membre du même clan adverse. Et lorsqu'il va accepter, il va se faire arrêter et officiellement accusé. Il va recevoir une peine de prison à vie et quelques mois plus tard, à la lumière d'une enquête policière, il va recevoir 30 ans additionnels à sa peine pour le meurtre d'une autre de ses victimes. En 2005, il est diagnostiqué avec la maladie de Kawasaki, qui est une maladie qui affecte principalement les enfants en bas âge et qui va causer d'énormes enflures des vaisseaux sanguins. C'est assez douloureux, il paraît, et il va être transféré à l'hôpital à cause de cette condition et va en décéder le 5 mars 2005 à l'âge de 70 ans. Une dame qui transforme ses victimes en savon et en gâteau. Rendez-vous à l'épisode 22 si vous connaissez pas encore l'horrible histoire de Leonarda Cianciulli, un tueur à gages qui tue de sang-froid. Et disons seulement qu'on va continuer d'augmenter l'intensité pour l'histoire d'Alexandre Pitchouchkine. Nos sources pour l'épisode d'aujourd'hui sont lemonde.fr, le journal du dimanche, Murderpedia et Wikipédia. Un petit avertissement avant de débuter l'épisode spécial Zodiac du jour. Étant donné que c'est un cas qui nous provient de Russie, c'est possible que les noms dans cet épisode soient prononcés avec un accent canadien. Ça se peut qu'on erronne un petit peu le nom des personnes qu'on mentionne aujourd'hui. C'est vraiment pas par manque de respect, c'est tout simplement parce que on ne parle pas le russe. Alexandre Lourivitch Pitchouchkin voit le jour le 9 avril 1974 à Michichti, à Moscou, en Russie. Il n'a que 9 mois lorsque son père va quitter le domicile familial et c'est donc la mère de famille, Natalia, qui va prendre la relève et élever son enfant toute seule. Au début, Alexandre Pitchouchkin, c'est un enfant assez doux, sociable, gentil. Alors qu'il a seulement 2 ans, il va déménager avec sa famille dans un autre appartement et sa mère se rappelle à quel point c'était un enfant patient, qui causait peu de problèmes, qui était somme toute assez facile à élever. Faire un déménagement, c'est assez compliqué avec un petit enfant de 2 ans, je peux même pas imaginer. Mais la mère, Natalia, se rappelle que tout s'est vraiment bien passé grâce au tempérament assez doux d'Alexandre. Le tout, cependant, a complètement basculé alors qu'Alexandre avait 4 ans. Il était en train de se balancer tout bonnement lorsqu'il a chuté et qu'il est tombé sur le dos. La balançoire a comme violemment frappé son front en revenant, parce que une balançoire, ça se balance. Et les spécialistes vont dire que cet incident-là va avoir endommagé son cortex frontal et que ce genre de dommage à cet âge-là, c'est souvent relié à de grandes manifestations de rage et de violence. Et donc, Alexandre Pitchouchkin va passer d'un enfant sans problème à un enfant à gros problèmes. Il est extrêmement hostile, il est vraiment agressif et maintenant il est vraiment, vraiment difficile d'approche. C'est vraiment le jour et la nuit entre le petit ange qui a jadis été. Un peu désemparée, la mère d'Alexandre va décider de l'inscrire dans une école réservée aux enfants avec des difficultés d'apprentissage. Et à cet endroit-là, Pitchouchkin va se faire ostraciser, se faire constamment appeler le petit retardé, et je cite. Ce qui est factuellement assez faux, Alexandre, il est assez intelligent en fait. La grand-mère d'Alexandre va réaliser assez rapidement que il n'y a pas de difficulté d'apprentissage. Au contraire, il est extrêmement curieux, il est vif d'esprit et il est très intelligent. La grand-mère juge qu'Alexandre est en train de bousiller tout son potentiel en étudiant dans une école qui n'est pas du tout adaptée à ses réels besoins, à son niveau d'apprentissage et que surtout, il est en train de bousiller toutes ses capacités sociales parce qu'il est constamment isolé, il passe son temps seul et c'est au travers de cette solitude-là qu'il va commencer à s'intéresser plus intensément aux échecs. La mère d'Alexandre rencontre éventuellement un autre homme et elle va tomber enceinte de nouveau. Et Alexandre, 8 ans, lorsque sa mère accouche d'une petite fille et qu'elle va prendre la décision de l'envoyer vivre chez ses grands-parents pour pouvoir se concentrer sur le nouveau petit bébé. C'est au moment où il va déménager chez ses grands-parents que ceux-ci vont commencer à l'encourager de plus en plus à s'adonner à sa passion, les échecs. Entre autres, il va passer de nombreuses heures au parc du quartier afin de jouer aux échecs avec des aînés qui étaient retraités. Et il va devenir extrêmement doué. Il développe une espèce de dépendance à l'adrénaline qu'il ressent quand il est en train de gagner ou quand il est à quelques coups de gagner une partie. Il est complètement accro à la sensation qu'il l'enveloppe quand il bat des joueurs plus expérimentés, plus âgés. Pour ceux qui ont déjà joué aux échecs, force est d'admettre que c'est vraiment un sport mental qui te donne une dose d'adrénaline. La stratégie, l'art d'essayer de prédire le prochain coup. Les échecs, en fait, c'est vraiment un jeu merveilleux, sauf quand l'échiquier tombe dans les mains d'une personne aussi tordue qu'Alexandre Pitchouchkin. Au début, la passion de Pitchouchkin pour les échecs, elle canalise sa violence, elle l'aide à se rapprocher de l'être plus doux, plus calme que sa mère l'imaginait devenir. Et lorsque son grand-père, pour lequel il éprouvait beaucoup, beaucoup d'affection, décède, il va sombrer. Forcé de déménager chez sa mère et de recommencer à fréquenter une école dans laquelle il y a peu d'amis et il passe le plus clair de son temps, à se faire intimider, à être isolé, c'est un Alexandre Pitchouchkin complètement endeuillé, ostracisé et rempli d'agressivité qui va commencer à consommer d'énormes quantités de vodka. On n'a pas besoin de vous dire que c'est un cocktail assez explosif. En parallèle, il continue de se rendre assez souvent au parc du coin pour défier les aînés aux échecs. Il va même consommer de la vodka avec eux à l'occasion, profitant du fait que l'alcool l'affecte moins rapidement que ses adversaires pour gagner de nombreuses parties. Sauf que toute la rage qui bouille à l'intérieur d'Alexandre Pitchouchkin ne peut plus être canalisée par de simples parties d'échecs. Il va commencer à développer une nouvelle passion, la vidéo. Il va se procurer une caméra vidéo et au début, il filme principalement des coups d'échec pour étudier sa stratégie. Mais un jour, il va être pris d'une pulsion inexplicable. Il va enlever un enfant et il va le filmer alors qu'il le menace et qu'il lui dit qu'il va lui faire beaucoup de mal. Il va pas passer à l'action, il veut juste avoir des images de la terreur dans les yeux de ses victimes et il va regarder ces vidéos-là en boucle. Il a environ 14-15 ans quand il commence à faire ce genre de torture-là. Un jour, il va même aller jusqu'à prendre un des gamins qu'il a décidé de torturer par le pied. Il le tient, mais il lui hurle que s'il grouille trop, il va le lâcher et que donc l'enfant va tomber tête première vers sa mort. Ouvre la citation. « Tu es en mon pouvoir maintenant, je vais te jeter par la fenêtre et tu vas faire une chute de 15 mètres vers ta mort. » Fin de la citation. Je vais juste prendre un petit 2 secondes. Est-ce qu'on peut imaginer le traumatisme pour les enfants? En 1990, alors que Pitchouchkine a 16 ans, il va refuser de s'engager auprès des forces armées de l'URSS alors que la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique bat toujours de son plein. Il va alors être envoyé dans un hôpital psychiatrique dû à son refus. On va seulement dire que malgré qu'on soit pas vraiment en mesure de connaître le traitement qui va lui avoir été réservé dans cet hôpital psychiatrique, on peut seulement imaginer qu'il a pas été reçu en roi et que c'était pas un hôtel 5 étoiles, loin de là. Pitchouchkine a été torturé pour avoir refusé de servir et il va en avoir gardé des séquelles pendant vraiment longtemps, selon ses dires. Il est surtout dit que c'est à ce moment-là qu'il est devenu encore plus violent, encore plus agressif et encore plus imprévisible. Il va éventuellement être relâché lorsque la guerre froide va prendre fin en 91 et c'est à sa sortie qu'il va reprendre contact avec le monde extérieur. Il est en train d'écouter les nouvelles à la télévision lorsqu'il entend parler pour la première fois d'Andrei Chikatilo, un tueur en série qui est accusé d'avoir assassiné plus de 52 personnes. La presse russe surnomme le tueur le monstre de Rostov et le décrit comme le tueur le plus sanguinaire, le plus prolifique et le plus terrifiant de l'histoire de la Russie. Pitchouchkine, doté d'un fort esprit de compétition, va développer une énorme fascination pour le tueur en série et plus précisément, il développe un plan. Et si sa passion pour les échecs, mélangée à celle de blesser, pouvait lui accorder plus de notoriété qu'à Andrei Chikatilo.
Le premier meurtre d'Alexandre a eu lieu le 27 juillet 1992 alors qu'il avait seulement 18 ans. Il a donné rendez-vous à son camarade de classe, Mikhail Odichuk, dans le parc Bitsa pour élaborer ensemble un plan visant à tuer 64 personnes. 64, c'est le nombre de cases que comporte un échiquier. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés au point de rendez-vous, Mikhail a changé d'avis et a dit à Alexandre qu'il ne voulait plus agir. Se sentant trahi par son meilleur ami, Alexandre l'a donc étranglé. Selon certaines sources, d'autres disent qu'il l'a frappé une vingtaine de fois à la tête avec un marteau. Ensuite, il a jeté son corps dans un égout du parc Bitsa, puis est retourné à l'appartement de sa mère qui était à environ 5 minutes de là à Moscou. Après la disparition de Mikhail, la police de Moscou a évidemment ouvert une enquête. Le témoignage d'un témoin fourni à la police a déclaré qu'il avait été vu pour la dernière fois avec Alexandre Pitchouchkine marchant en direction du parc. Le lendemain seulement, le 28 juillet 1992, le corps de Mikhail est découvert. La police retrace donc les dernières heures précédant la mort du jeune homme de 18 ans. Alexandre a été arrêté au domicile de sa mère le 30 juillet et amené au commissariat de police de Moscou pour y être interrogé sur son emploi du temps le jour de la disparition de Mikhail. Alexandre a confirmé l'avoir rencontré, mais a affirmé l'avoir laissé indemne dans le parc. Sans aucune preuve le liant à la disparition, il a été libéré. Dans les semaines qui suivent le meurtre, Alexandre tombe sous le charme d'une fille prénommée Olga A., une voisine âgée de 18 ans qu'il voit souvent dans le quartier et côtoie de manière récurrente. En fait, il est follement amoureux d'elle et il veut bâtir sa vie avec elle. Il va tenter le tout pour le tout et faire des avances à Olga qui refuse puisqu'en fait, elle était déjà en couple. Non seulement elle était déjà en relation, mais elle était en relation avec un des amis d'Alexandre qui s'appelle Sergei B. Furieux face au refus d'Olga, Alexandre se rend chez son ami Sergei et son intention était loin d'être amicale. Il s'y rend pour se débarrasser de celui qu'il voit comme un rival, la seule chose qui s'interpose entre lui et une vie avec sa bien-aimée. En septembre 1992, il tue Sergei en le jetant d'une fenêtre et quitte rapidement l'appartement de ce dernier. Peu de détails est connu concernant le meurtre, mais ce qu'on sait, c'est que le corps sans vie de Sergei est rapidement découvert. Une enquête est ouverte, mais malheureusement, la mort de Sergueï sera classée comme un suicide et Alexandre ne sera jamais condamné. Alexandre va cesser toute activité meurtrière en octobre 1982 à la fin du procès d'André Chikatilo, le tueur en série que Jess vient tout juste de parler, qui a tué 52 femmes et enfants entre 1978 et 90. Ce dernier a été condamné à la peine de mort, ce qui a effrayé Alexandre et le pourquoi il a abandonné tous ses plans de meurtre, ne voulant pas subir une exécution par fusillade comme André. Le 14 février 1994, André Chikatilo est exécuté et c'est à ce moment-là qu'Alexandre réalise que ses pulsions meurtrières sont toujours présentes en lui, même plus fortes que jamais. Son objectif de tuer 64 personnes aussi est toujours présente, dans le but de compléter les 62 cases manquantes de son échiquier, ayant complété les deux premières. Là encore, il renonce à ses projets de meurtre, du fait que la peine de mort soit encore appliquée en Russie. À partir de 1996, la peine de mort n'est plus appliquée en Russie. Enfin, Alexandre se convainc d'accomplir les 62 meurtres qu'il avait envisagés dans le passé. Il se met à s'entraîner dans le but d'avoir le dessus sur ses victimes quand il va commettre ses 10 meurtres. Son objectif, c'est de remplir la totalité des cases de son échiquier et de dépasser le record du tueur en série le plus prolifique de Russie, et il repasse à l'acte en 2001.
Alexandre Pitchouchkin, c'était un homme extrêmement tordu. Il se lie généralement d'amitié avec ses victimes et il sélectionne principalement des personnes en situation d'itinérance. Il va toujours offrir à ses victimes de partager une bouteille de vodka et il va discuter avec eux, va leur proposer souvent même de l'accompagner pour pleurer son chien mort qu'il disait avoir enterré dans une zone isolée, non loin du parc. Le chien dont Pitchouchkin fait mention a bel et bien existé, même si maintenant utilisé à des fins extrêmement sadiques. Dans une entrevue avec un journaliste qu'on vous conseille vraiment d'aller consulter via le lien Murderpedia dans la description de l'épisode, Pitchouchkin aura dit, ouvre la citation, « J'ai des cauchemars. Un chien qui a vécu avec moi durant longtemps. Elle est morte, c'était ma faute. Je ne l'ai pas traité, comment dire, pas très... Elle aurait pu être sauvée. C'était une mauvaise situation. Ça a laissé des traces dans mon subconscient. » Fin de la citation. Il faut croire que la mort de sa chienne n'a pas laissé de traces assez suffisantes dans son subconscient pour le pousser à s'abstenir de tuer davantage. Mais on est à Crime et Cocktail, c'est un épisode spécial Zodiac. On sait tous qu'Alexandre Pitchouchkin a plutôt repoussé les limites de l'horreur, un crime à la fois. Justement, c'est après avoir attiré ses victimes loin du parc qu'il va fracasser leur crâne, soit à l'aide d'une bouteille de vodka avec laquelle il a affaibli les facultés de ses adversaires, ou que ce soit à l'aide d'un marteau, tout dépendant de la grosseur, la grandeur et l'état d'ébriété de l'individu qui tentait d'assassiner, Alexandre Pitchouchkin s'adaptait. Il développe même une petite signature, là, il va développer la bouteille de vodka partagée avec sa victime dans son crâne. S'il n'est pas en mesure d'y insérer la bouteille, il va plutôt y insérer un bâton. Parmi les victimes qui ont connu cet horrible sort, on compte Yevgeny Pronin, âgé de 52 ans, qui a été assassiné d'un coup à la tête porté par la fameuse bouteille de vodka. Son corps a été grossièrement lancé dans un puits, mais il a d'abord disputé une partie d'échecs contre un meurtrier avant de se faire offrir un verre, de se faire demander d'accompagner l'assassin pour pleurer sur la tombe de son chien défunt. Le tout pour se faire assommer à mort et jeter dans un puits. Iva Cheslav Klimov, âgé de 64 ans, même modus operandi. Yuri A, presque en tout point identique au meurtre de Pronin. Nikolai Tikhomirov, un homme âgé qui subit le même sort via le même MO. Nikolai Flipov, un homme de 72 ans, exactement le même crime. Gennady Safonov, âgé de 61 ans, toujours la même histoire, toujours le même sort. Serhiy Pavlov, 44 ans. Sa mort, à lui, est un peu plus brutale et l'assassin porte beaucoup plus de coups à sa tête. Il dit que Pavlov avait en fait gagné sa partie d'échecs contre Pitchouchkin et que ça l'avait beaucoup, beaucoup enragé et que c'est pour ça que Serhiy a connu une mort aussi violente. Viktor Elistratov, âgé de 45 ans, même modus operandi. Le lendemain, le tueur en série assassine Viktor Volkov, âgé de 54 ans, et cet homme-là trouve la mort dans les mêmes circonstances que toutes les autres victimes de Pitchouchkin. Andrei Konovaltsev, un jeune alcoolique de 22 ans, va perdre la vie des mains du tueur à l'échiquier. Au travers de cet élan de folie, de cette espèce de rage meurtrière, Pitchouchkin va croiser le chemin de Oleg Lvov, un homme de 49 ans avec lequel il va partager un verre dans l'appartement de celui-ci. Et pour une raison inconnue, les deux hommes se mettent à se quereller assez violemment et Alexandre va pousser Oleg en bas du balcon. Et c'est le premier meurtre pour lequel il va être pris d'un élan de regret et va retourner sur les lieux du crime le lendemain et apprend que la mort de Leg a été classifiée comme un suicide. Et donc, il regrette plus rien, il reprend le chemin vers sa rage meurtrière. C'est après l'assassinat du jeune homme de 22 ans que Pitchouchkin va prendre un petit moment pour arrêter de tuer pour une courte durée.
À la suite de ces 6 mois de pause, Alexandre a, selon lui, une idée de génie, une autre manière de commettre ses meurtres. La technique, jeter ses victimes dans les égouts. Oui, comme il faisait avant, mais cette fois-ci, il veut les jeter vivantes. Il décide aussi de s'attaquer plus à des gens qu'il connaît et non seulement se focusser sur des inconnus. Il a déclaré plus tard, ouvre la citation, « Finalement, tuer quelqu'un que l'on connaît, c'est agréable. » Fin de la citation. Le 29 janvier 2002, Alexandre aborde André Veselovski, 42 ans, à la suite d'une partie d'échecs. Le tueur va entraîner sa nouvelle victime dans un endroit isolé du parc de Bitsa avant de le jeter vivant dans un puits voisin. Il va mourir noyé et sera emporté par le courant, et Alexandre va vérifier qu'André est bien mort avant de quitter les lieux. Le 13 février 2002, Pitchouchkin approche Yuri Shumakov, 48 ans. Encore une fois, Alexandre va utiliser le même modus operandi que sa dernière victime. Le 23 février 2002, Pitchouchkin attire Maria Viricheva, une jeune femme âgée de 19 ans et qui est enceinte au moment de cette rencontre au parc de Bitsa. Il la pousse dans le même puits où la plupart de ses victimes ont été tuées, mais Maria est une battante et elle va s'accrocher aux parois. C'est à ce moment-là qu'Alexandre va lui empoigner les cheveux et fracasser sa tête à plusieurs reprises contre les murs de béton avant qu'elle ne tombe. Croyant que Maria est morte, il s'en va. Ce n'est que le lendemain matin, après avoir passé 20 heures dans les égouts, que Maria Viricheva parvient à sortir du puits avec l'aide d'un passant qui marchait dans les vastes forêts de Bitsa. Maria Viricheva s'en sort finalement indemne, avec seulement quelques ecchymoses et égratignures, et ce, sans faire de fausses couches. Elle va porter plainte à la police, mais étant une immigrante illégale, elle est contrainte d'abandonner sa plainte selon laquelle Alexandre Pitchouchkin avait tenté de la tuer. Maria Viricheva, c'est l'une des rares survivantes du tueur à l'échiquier. Le tout n'a pas semblé angoisser Alexandre parce que 4 jours plus tard, le 27 février 2002, il frappe à nouveau. Il rencontre et tue Vera Sakariva, 48 ans, dans le parc de Bitsa, puis jette son corps sans vie dans les égouts avant de s'en aller. Le 7 mars 2002, il va aborder Boris Nesterov, un homme de 46 ans, à la suite, encore une fois, d'une partie d'échecs et bien même modus operandi. Il va lui proposer de se rendre sur la tombe de son chien, puis bien, il va le jeter dans les égouts. Le 8 mars 2002, Alexei Fedorov va connaître le même sort que les autres victimes avant lui. Le 10 mars 2002, Alexandre rencontre le jeune Mikhail Lobov, âgé de seulement 14 ans. L'adolescent se rend régulièrement au parc pour faire du skateboard et, malgré son jeune âge, est malheureusement toxicomane. Il l'attire en lui promettant des cigarettes et de la vodka, le frappe à la tête, puis le pousse dans le puits. Croyant le garçon mort, il quitte les lieux, mais sa victime est toujours vivante et la veste du jeune homme s'était coincée dans un morceau de métal à l'intérieur du puits. Il parvient à regagner la terre ferme sans couler dans les eaux glacées comme plusieurs avant lui. Mikhail Lobov va se rendre à la police et accuser Alexandre Pitchouchkin de tentative de meurtre, mais il ne sera pas pris au sérieux parce qu'il est dépendant à la cocaïne. Une fois de plus, Alexandre Pitchouchkin s'échappe des mains de la police et continue son plan meurtrier.
Case après case, Alexandre Pitchouchkin tente de remplir l'échiquier. On est en 2003 lorsque l'assassin jette un pauvre Alexei Fatkulin de 72 ans dans les égouts. Il est toujours vivant et il meurt noyé, emporté par le courant. Il fait subir le même sort à Viktor Ilin, puis à Igor Kastanov, âgé de 62 ans. 2 jours plus tard, il utilise toujours le même modus operandi pour injustement enlever la vie d'Oleg Boyarov. Peu de temps après, c'est le tour de Vasily Stanovoy, âgé de 40 ans. Presque 2 mois après avoir débuté la 3e phase de son opération lugubre, il assassine Serhai Chodin en suivant le même modus operandi et c'est après avoir assassiné Serhai qu'il réalise le danger derrière son plan. Une de ses victimes pourrait survivre au courant et ultimement témoigner aux autorités comme 2 l'ont déjà fait. Ben, éventuellement, les autorités vont finir par les prendre au sérieux. Il va donc se promettre de ne plus jamais faire tomber des victimes vivantes dans le puits et il va camoufler soigneusement une matraque sous ses vêtements lors de ses prochaines visites au parc. On est en août 2003 lorsque Egor Krudiavst croise le chemin du tueur à l'échiquier. Il est d'abord abordé et sollicité pour disputer une partie d'échecs avant d'être violemment assassiné de plusieurs coups de matraque à la tête. Alexandre Pichouchkine se débarrasse de la dépouille dans un puits non loin du parc. Vladimir Formin est âgé de 31 ans lorsqu'il subit le même sort et on ne retrouvera jamais son corps. Et malgré le fait que son père ait déclaré sa disparition, les autorités russes n'entament aucune recherche et ne vont émettre aucun avis de disparition, tout simplement parce que Vladimir est considéré comme un homme adulte. Comme si les adultes pouvaient pas disparaître. En novembre de la même année, c'est Vladimir Fedosov de 44 ans qui perd la vie aux mains du tueur sordide. Le lendemain de cet assassinat, le 15 novembre 2003, Pichouchkine aborde Konstantin Polikarpov et procède au même modus operandi. Il jette ce qu'il estime être la dépouille de Konstantin dans le puits, sauf que Konstantin est encore en vie. Pour la troisième fois depuis le début de son plan machiavélique, il y a l'une des victimes de Pichouchkine qui s'en sort et surtout qui se souvient de lui, de son visage, de sa voix, qui se souvient de tout. Malgré tout ça, Pichouchkine passe les 15 prochains mois libre comme l'air, mais ne tue pas. Est-ce que le meurtrier aurait finalement retrouvé la raison? Les amis, on est à Crime et Cocktail quand même.
Le 22 février 2005, Alexandre aborde Peter Dudukin, un homme de 57 ans, dans le parc de Bitsa. Recyclant ses vieilles tactiques, il lui propose de se rendre sur la tombe de son chien afin de s'y recueillir, ce à quoi Peter accepte. Tous deux se rendent dans un coin isolé du parc et Alexandre sort un bâton de son sac et frappe Peter à plusieurs reprises. Peter Dudukin décède des multiples coups portés à la tête et Alexandre jette son corps dans un puits voisin puis quitte les lieux. Le 8 juin 2005, André Maslov, 40 ans, va connaître le même sort. Après le meurtre, Alexandre va jeter la dépouille dans les égouts, mais par contre, le tueur commence à en avoir marre de cacher le corps de ses victimes. Il devient lâche devant tout ce travail. Le 28 septembre 2005, il aborde Yuri Kuznetsov, 46 ans, et l'entraîne dans un coin isolé du parc de Bitsa. Comme avec sa dernière victime, il va sortir un bâton et le frapper à la tête à plusieurs reprises, et ce dernier va succomber à ses blessures. Alexandre va quitter les lieux après avoir jeté le corps de sa victime dans les égouts, et ce, pour la dernière fois depuis 13 ans. Il prend dès lors la décision de ne plus cacher les corps de ses victimes, mais de les abandonner à découvert. Le choix de laisser les corps en plein air est probablement lié au fait qu'aucun meurtre ne paraisse dans le journal, puisque ses victimes sont toujours des gens qui ne seront soit jamais pris au sérieux, ou bien malheureusement, personne ne réalisera leur disparition. Pourquoi donc se donner tant de mal en cachant les corps?
Cette nouvelle décision de Pichouchkine, ironiquement, va le conduire à sa propre perte. Laissant maintenant les corps de ses victimes à découvert, les policiers vont rapidement se mettre à faire des liens entre les victimes et éventuellement à soupçonner Pichouchkine d'avoir quelque chose à voir avec tous les meurtres commis dans la région. Les soupçons des enquêteurs ne font qu'augmenter lorsqu'à quelques reprises, ils voient le même Alexandre Pichouchkine en compagnie des victimes quelques temps avant le meurtre via des caméras de surveillance. C'est seulement lorsque Pichouchkine va assassiner une collègue de travail que les policiers vont retrouver son numéro de téléphone dans la poche de sa victime, Marina Moskalyova, qui au total était la 14e victime dont le cadavre avait été laissé à découvert dans le parc de Bitsa. Il n'y a plus aucun doute pour les autorités russes, Alexandre Pichouchkine, c'est probablement l'homme qu'ils recherchent. Ils vont lui passer les menottes le 16 juin 2006, soit plus de 14 ans après son premier meurtre. Il se fait arrêter alors qu'il passait un moment au domicile de sa mère Natalia et il est aussitôt interné à la prison de Moscou. Pichouchkine ne se fait pas prier avant de tout avouer aux policiers. Ouvre la station. Pendant 14 ans, j'ai fait tout ce que je voulais dans le parc de Bitsa. J'étais comme un dieu. Je tuais pour vivre parce que lorsqu'on tue, cela signifie qu'on est en vie. Pour moi, la vie sans tuer, c'est comme la vie sans nourriture. Je me sentais comme le père de tous ces gens parce que c'est moi qui leur ouvrais la porte vers un autre monde. Fin de la citation. Si vous n'étiez pas déjà convaincu qu'Alexandre Pichouchkine est complètement tordu... En parlant de sa première victime, il va avoir également dit aux autorités, ouvre la station, le premier meurtre, c'est comme le premier amour, il ne s'oublie jamais. Vous êtes extrêmement proche de la personne que vous tuez. Fin de la station. On garde Pichouchkine enfermé derrière les barreaux tout au long de ses aveux et le 26 octobre 2006, on va l'accuser formellement de 49 meurtres et de 3 tentatives de meurtre. Sauf qu'il reste une étape assez importante, là il faut déterminer si Pichouchkine souffre ou non d'un trouble mental ou s'il était bel et bien conscient de ses actes lorsqu'il les a commis. En juin 2007, on va finalement recevoir les résultats de l'évaluation psychiatrique et on déclare que Pitchouchkine est apte à recevoir son procès. Ce n'est qu'en août 2007 qu'on peut finalement accuser officiellement Pitchouchkine. L'assassin demeure insatisfait toutefois. Là. Il va exiger que tous les meurtres qu'il revendique soient ajoutés à la liste de ses victimes et donc à son jugement. La cour va refuser. Le procès officiel d'Alexandre Pitchouchkine débute le 13 septembre 2007, soit plus d'un an après son arrestation initiale.
Alexandre Pitchouchkine a été reconnu coupable le 24 octobre 2007 des 49 meurtres et 3 tentatives de meurtre dont on l'accuse. Comme mentionné par ma co-animatrice il y a quelques instants, il a demandé à un tribunal russe d'ajouter 11 victimes supplémentaires à son décompte des morts, ce qui porte son bilan à 60 morts et 3 victimes survivantes. Durant son procès, il a été enfermé dans une cage de verre pour sa propre protection. Après la condamnation, le juge Vladimir Usov a condamné Alexandre Pitchouchkine à la réclusion à perpétuité, les 15 premières années étant passées en isolement cellulaire. Alexandre a fait appel de sa condamnation, affirmant qu'elle était trop sévère et a demandé une réduction à 25 ans. Le tout a évidemment été refusé. Au lendemain de sa condamnation, le 30 octobre 2007, Pitchouchkine déclare au tribunal qu'il ne regrette aucun de ses crimes. Ouvre la citation. « J'ai fait ce que j'avais décidé de faire pendant des années. Cela fait maintenant 500 jours que je suis arrêté et, pendant ce temps-là, tous décident de mon destin. Policiers, juges, procureurs, mais moi, j'ai décidé du destin de 60 personnes. Il n'y avait que moi seul pour être juge, procureur et bourreau. J'ai rempli seul toutes vos fonctions. » Ferme la citation. En 2009, il reçoit plusieurs lettres d'une jeune femme sibérienne de 22 ans nommée Natalia qui travaille dans une boutique pour enfants. Comme bien d'autres femmes qui, atteintes d'hybristophilie, ressentent une attirance pour des criminels, Natalia a écrit à une multitude de meurtriers emprisonnés et Alexandre Pitchouchkine lui a répondu. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre au bout de 2 ans de correspondance, soit en 2011, mais le tueur en série étant en isolement carcéral, Natalia et lui ne se sont jamais rencontrés en personne. Lorsqu'ils communiquent par correspondance uniquement, tous deux s'envoient plusieurs dizaines de lettres avec des projets de mariage. En 2014, la prison a décidé de bloquer leur échange en interdisant toute possibilité de correspondance entre les deux amoureux. En juin 2016, Alexandre Pitchouchkine est en prison depuis 10 ans lorsque Natalia est interviewée au sujet des fausses rumeurs sur leur relation, rumeurs disant que le couple aurait rompu. Ils ont toujours l'idée de se marier. Les 15 années d'isolement suivant sa condamnation se sont terminées en octobre 2022. On ne sait pas si les tourtereaux ont finalement pu reprendre contact ou non. Devenu une espèce de star dans le monde du crime, Pitchouchkine a souvent été interviewé par des journalistes. En se faisant demander s'il croyait au pardon, voici ce qu'il a répondu. Ouvre la citation. « Non, je ne le regrette pas. Tellement d'énergie et de temps dépensé. Me repentir? Je ne me repens pas. C'est une ennuyeuse formalité. Ça ne changera pas ma sentence. » Je savais qu'ils m'avaient coincé lorsqu'ils ont commencé à me parler de 12 victimes, mais ils étaient si surpris lorsqu'ils ont appris que j'en avais fait 60. J'ai regardé une émission à mon sujet à la télévision. Plusieurs ont dit que j'étais un corps rare, un tueur qui tue juste pour le plaisir de tuer. Mais il n'y avait aucune motivation, pas la race ni la religion. Cela n'empêche, je vais marquer l'histoire pour toujours. » Fin de la citation.
Et ce sont sur ces paroles complètement tordues et dépourvues de quelconque humanité que cet épisode va se conclure.
Et poursuivre notre tradition, Jess, de quoi tu me parles la semaine prochaine?
La semaine prochaine, je vous parle d'un autre cas assez troublant dans lequel un individu a assassiné son enseignante dans les toilettes de son école. On se retrouve la semaine prochaine. Ah!
Crime et cocktail.
Cheers, guys.
Chin, chin.